Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le Comptoir du cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Ce soir, ici au studio de Transistor, on fête le 20e épisode de l'émission. Voilà, on a même un petit sablé aux pépites de chocolat pour l'occasion. Merci infiniment pour votre confiance, chers auditeurs, pour votre écoute, pour vos retours qui nous ont aidés à bâtir cette émission avec la constance d'un épisode tous les lundis soirs. Quand même. Bienvenue donc à vous quatre ce soir, Alexia, Thomas, Cassien et Nathan, pour un programme, pour un grand écart en fait, entre restitution du festival Écran Mix dans les ovnis du comptoir de Thomas, et puis avec ma rencontre avec le réalisateur japonais Tsuyoshi Shoji, venu à Lyon pour son film Old Narcissus. Et enfin, notre débat sur Madame de Sévigné. Voilà, donc tout ça n'aura rien à voir, et c'est la richesse aussi de notre émission qui est aussi la vôtre. Eh bien, nous commençons tout de suite. Thomas, tu as tenu à passer encore une fois de l'autre côté du comptoir, vers la face cachée du cinéma, et nous faire encore découvrir ces espaces inconnus, obscurs, censurés du cinéma. Enfin, je ne vole pas la DA du cours d'Élodie Tamayo en le disant, j'espère.
Censurés, oui. Enfin, en tout cas, ils sont finis, les films que je montre, desquels je parle. Mais alors, pour cet épisode des OVNI / compte-rendu du festival Écran Mixte, j'ai voulu un peu brouiller les pistes. Et en plus, comme on est à la 20e émission, on va commencer avec une petite musique. Attendez, je l'active. Hein. Je vous assure, hein, je ne fais pas une Frédéric Beigbeder, BD, hein, j'ai vraiment une chronique. Hein. Est-ce que vous reconnaissez la chanson? Bon, je pense que c'est dans le titre, YMCA des Village People, exactement. Bon, j'arrête tout de suite parce que c'est insupportable. Et oui, le titre qui chante les louanges des Young Men's Christian Association, l'association des jeunes hommes chrétiens. Une chanson que l'on se farcit à chaque fin de kermesse, fête d'école, qui fait sourire. Et avec la chorégraphie, on ne sait jamais trop comment la danser, c'est toujours un peu maladroit. Bon, on voit difficilement le lien avec les ovnis pour l'instant, je reconnais. Mais maintenant, ma deuxième question. Est-ce que vous connaissez François Abou? Silence. C'est un peu normal, mais figurez-vous qu'en fait il a été chef opérateur pour le clip de YMCA. Et François Abou, du coup, est l'homme qui a vraiment filmé les membres du groupe en tenue de cow-boy, motard, natif d'Amérique du Nord, soldat, policier. Bon, un mélange très discutable, je le reconnais. Un mélange très discutable. Hein. Mais François Abou n'est pas seulement le collaborateur des Village People, celui qui a filmé leurs trois premiers clips. C'est aussi un monument dans le cinéma porno homosexuel gay dans les années 1970. Et c'est de lui dont on va parler, car je retombe maintenant sur mes pattes. François Abou était là à Écran Mixte pour présenter la double séance, sobrement intitulée Cruising in New York City Inferno, réunissant Cruising de William Friedkin et New York City Inferno de Jacques Scandellari. Donc ce choix de programmation était extrêmement bienvenu de la part du festival, et montre d'une certaine manière comment les films et comment la pornographie, en quelque sorte, est un reflet de la société. Car d'abord, cette séance a été une occasion de redécouvrir Cruising sur grand écran. Alors, c'est un film maudit pour William Friedkin, habitué des films maudits, car c'est le réalisateur de L'Exorciste. Et Cruising réunit Al Pacino en tête d'affiche, comme policier qui infiltre les milieux homosexuels gays pour enquêter sur un tueur en série. Donc ce jeune policier qui est en quête d'une promotion hétéro infiltre la communauté gay entre observation et on ne sait pas s'il va participer, enfin c'est tout l'enjeu du film, et il vient enquêter Il vient enquêter sur la succession, sur ces divers meurtres. Ce film, fondé sur un fait divers, qui a vraiment semé la terreur dans le milieu gay new-yorkais, voulait... Interrogation pour Friedkin d'adopter une démarche vraiment naturaliste. Il a voulu réellement tourner dans les sex clubs de Greenwich Village, mais celui qui lui a quand même attisé toute la défiance de la part de la communauté homosexuelle new-yorkaise. Car cette communauté déjà victime de violences systémiques de la part de la police municipale voyait d'un mauvais œil cette grosse production hollywoodienne qui ne pouvait que faire du mal, du moins c'est ce qu'elle imaginait, que faire du mal aux personnes homosexuelles de New York. Donc le tournage en fait a été un vrai calvaire. Le tournage était empêché, il y avait de véritables sittings en face des bars qui servaient de décor, et les scènes de rue ont dû être entièrement redoublées, pour couvrir les bruits de manifestants lors des prises. L'ensemble des décors ont été reconstitués en studio, ce qui a fait exploser le budget et qui a rendu le montage particulièrement difficile. Et d'ailleurs, ce montage difficile, cette partie de post-production, n'a fait que s'empirer, car sous la pression de plusieurs groupes conservateurs, 40 minutes du film, dont les scènes les plus hot, on va dire, ont été retirées et sont aujourd'hui définitivement perdues. Donc on ne sait pas en fait ce qui se passe. Enfin, aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir quelles sont les scènes qui ont été conservées ou perdues. Mais pourtant, le film de Friedkin ne partait clairement pas d'une mauvaise intention. En fait, quand on regarde le scénario et quand on le voit, on voit que Friedkin a eu un véritable effort pour dénoncer la violence systémique de la police contre la communauté gay. Nous sentons vraiment la défiance des membres dans le scénario vis-à-vis de ces policiers, et notamment sur le jeu que propose Friedkin autour de l'uniforme policier. Il s'agit à la fois dans le film d'un fétichisme, mais aussi d'un véritable uniforme qui caractérise la NYPD. On voit que la violence est réelle dans le film. Il y a des policiers qui abusent de leur pouvoir pour en échange de faveurs sexuelles, mais l'uniforme est aussi un kink. C'est un moyen en fait de subvertir la violence à l'extérieur du club pour en quelque sorte en faire un moment de plaisir. Le film joue vraiment sur cette tension voulue par l'uniforme et l'anonymat recherché par les membres des clubs et ceux qui les fréquentent, car dans ce milieu où tout se ressemble, où tout le monde ressemble à un policier, comment trouver l'agresseur, où se cache-t-il, et comment savoir quand on va se faire tuer en quelque sorte. Mais nous sentons le dérapage arriver, car finalement, dans ces milieux où tout est caché, ou ces milieux de l'underground, la morale que propose Friedkin, c'est plutôt de vivre caché que de se montrer. En quelque sorte, il vaut mieux pour la communauté gay de ne pas attirer trop les regards sur elle, car c'est un risque de s'exposer à l'opinion publique, et aussi en fait d'attirer les violences sur elle. Car le film reste extrêmement maladroit et succombe à certains points à une forme d'homophobie. Dans un premier plan, le film de Friedkin utilise des arguments psychanalysants où on voit des personnages où leur homosexualité est justifiée par une figure paternelle absente. Vous voyez l'équation, figure paternelle absente, donc désir d'homme. Bon voilà, ça tient plus trop la route. Ça tient plus trop la route aujourd'hui. Et de même, pour les pulsions de violence, la violence dans la communauté homosexuelle et les meurtres seraient la cause d'une non-acceptation de des pratiques sexuelles par la société ou par un père, un glissement qui fait de tous les homosexuels des criminels en puissance. Enfin, on le comprend. Et de même, la reconstitution en studio porte un véritable coup au film, car la démarche naturaliste de Friedkin ne suit absolument pas. Le projet est complètement phagocyté, et donc aucune scène n'est crédible, aucune scène de sexe n'est crédible, elles sont toutes risibles en quelque sorte, et on a l'impression plutôt de voir un patchwork et une collection de pratiques sexuelles exotiques, avec vraiment exotiques, où en réalité les scènes de sexe les plus complètes dans Cruising sont celles hétérosexuelles, donc on a vraiment du mal à y croire. Ce qui, en fait, en deuxième partie de programmation de New York City Inferno, contrebalance complètement. Car New York City Inferno, en quelques mots, c'est un film pornographique qui était diffusé dans des salles pornographiques en 1978, donc à un public bien plus restreint et à un public qui ne faisait pas que regarder les films, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, parce que à l'image, déjà, c'est une liberté totale qui est présentée. Le film, en quelque sorte documentaire du cruising à New York City, montre les lieux fréquentés par la communauté gay pour faire l'amour. Il ne faisait pas l'amour dans un lit bien moelleux, comme on peut l'imaginer. Ce ne sont pas seulement des représentations de sexe bourgeoise qui sont montrées, mais des rencontres à l'improviste entre deux hommes qui ont lieu dans les abattoirs, sur des docks et dans des toilettes, dans des lieux extrêmement mal famés, qui donnent lieu à des scènes de sexe. En quelque sorte, la communauté gay essaye de faire feu de tout bois. Il y en a eu notamment en ouverture du film, à côté d'un bout de viande congelée qui pend. Donc dans la salle, il y a eu des rires. Les gens étaient aussi en partie mal à l'aise. Mais c'est vrai, c'était une réalité quand même, parce que les abattoirs étaient un lieu extrêmement prisé par la communauté gay de New York pour des rencontres sexuelles. Mais l'occupation de territoires marginaux comme des abattoirs et des warehouses montre à quel point la population était marginalisée et poussée à occuper l'espace urbain dont personne ne veut pour se retrouver. Donc dans une moindre mesure, c'est une lecture historique qui peut rappeler le plus contemporain L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, un film sorti en 2013 qui avait aussi fait beaucoup de bruit, car ce sont des scènes de cruising autour d'un lac où l'on montre à quel point la communauté homosexuelle s'adapte à son lieu juste pour pouvoir se retrouver d'une certaine manière. New York City Inferno est aussi la conquête d'une vraie liberté. Contrairement à ce que j'ai pu décrire, ce ne sont pas seulement des scènes de sexe rajoutées pêle-mêle, mais il y a un vrai scénario. Car nous suivons un personnage, Jérôme, dont son ami Paul est parti à New York pendant une semaine et lui a écrit une lettre en disant qu'il n'allait plus jamais revenir à Paris. Il y a une vraie recherche formelle dans les textes, les lettres sont vraiment bien écrites, et le film, en montrant New York, présente un point de comparaison avec le climat parisien de l'époque. Le climat parisien où François Aboul, le chef opérateur du film, a pu donner quelques éléments et quelques anecdotes. Car dans les années 70, sa concierge, il l'a répété souvent, lui rappelait tous les matins qu'il aurait dû être en prison, elle faisait des listes des hommes qui venaient chez lui, et les persécutions dans les barguets à Paris étaient extrêmement fréquentes. Quand jusqu'à la dépénalisation de l'homosexualité par Robert Badinter le 4 août 1982, qui a fait des pratiques policières de descente complètement impossibles, rendant l'homosexualité non pénalisée. Donc New York est ce vrai havre de liberté. Un vrai havre de liberté qui a été vécu par François Aboul lui-même, car il s'est installé à New York parce que plusieurs de ses bails parisiens n'ont pas été renouvelés à cause de son orientation sexuelle. Donc on montre à quel point la loi de Badinter était vraiment importante. Car bien plus qu'une œuvre pornographique, New York City Inferno est un véritable documentaire. Un documentaire qui apparemment, selon l'historien Hervé-Joseph Lebrun, a inspiré le tournage de Friedkin. Friedkin aurait assisté à une projection par des amis d'amis extrêmement confidentielle, et c'est à ce moment-là qu'il aurait eu l'idée. Il serait allé voir Jacques Scandellari et lui aurait dit « Oui, je veux faire un film exactement sur le milieu que tu as décrit. » Je veux faire cruising, en quelque sorte. Bon, voilà, c'est un peu téléologique, la façon dont je le raconte. Mais c'est vraiment cette immersion dans le milieu du cruising gay qui a inspiré Friedkin. Car le sexe n'est absolument pas lissé. Contrairement aux scènes pornographiques que l'on peut connaître. Il y a tous les moments d'hésitation, tous les moments de malaise ou tous des petits gestes un peu mal placés qui sont gardés. Par exemple, un débardeur mal mis, une poignée de main à la fin d'une relation sexuelle, ou même tout simplement les 20 dernières minutes assez délirantes du film où François Aboul est juste allé dans un club BDSM et il se baladait avec sa caméra où il filmait. Attention, accrochez-vous, des pratiques de domination, d'urophilie, où il y avait même des chiens qui traînaient. On ne comprend vraiment pas trop ce qui se passe à l'intérieur de ce club.
On parle de parental advisory sur Spotify, Thomas.
Ah oui, non mais vraiment, je vous assure que tout d'un coup, quand on voit des animaux en train de courir un peu, mais enfin, je vous rassure, hein, les animaux ne sont pas impliqués dans les pratiques sexuelles, ils servent juste de décor, et c'est cela qui rend...
J'ai cru qu'on entendrait ça dans l'émission. Hein.
Eh ben oui, pour les 20 ans du comptoir, on se surpasse, pour la 20e émission du comptoir, on se surpasse. Et donc en fait, il sert la caméra de Jacques Scandellari avec un scénario qui est extrêmement poussé, montre surtout le mode de vie new-yorkais. Car dès la première séquence avec un taxiste qui raconte en fait sa réalité, où en fait il n'est pas seulement taxiste, il est aussi étudiant en études françaises et juste emmène les gens à droite et à gauche pour se payer ses études, est redoublé avec d'autres scènes complètement documentaires où nous avons au moins 40 minutes sans sexe dans un film pornographique, ce qui semble être un exploit quand on l'imagine aujourd'hui. Et je pense que la scène la plus délirante et la plus instructive à mon avis est celle d'une conversation entre quatre hommes où le principal interlocuteur est est le représentant du lobby chrétien pour les gays. Le lobby chrétien pour les gays, on retombe sur le YMCA avec les Young Christian Men, mais en effet, il raconte l'importance de son lobby pour affirmer le poids politique que représente la communauté homosexuelle à New York City. Il propose des réinterprétations de la Bible pour qu'elle s'adapte à la vie moderne et à une meilleure acceptation de la communauté gay, et insiste bien sur le fait que qu'en se constituant en lobby et se constituant en organisation, les gays pouvaient bloquer New York et montrer à la mairie qu'ils étaient un vrai poids politique. Et à partir de ce moment-là, ces conversations sont extrêmement instructives, avec le point de vue du personnage français, complètement ahuri du fait que la communauté gay est en quelque sorte un passage obligé pour chaque politique new-yorkais, notamment au moment des élections municipales. Le cinéma pornographique est donc un lieu de subversion complète. Un lieu complètement libre où, en fait, face à une homosexualité absente du paysage médiatique, il y a ces petits cinémas qui proposent complètement l'inverse. Des images où la sexualité est complètement débridée, n'est absolument pas conventionnelle, proposent vraiment un autre modèle. Donc ce n'est pas une pornographie de simple consommation, New York City Inferno. Le sexe devient réellement politique, et aujourd'hui, grâce à la restauration de films, nous comprenons l'importance des luttes associées à la liberté sexuelle. Cette sexualité débridée n'est pas seulement un moyen de combler des dites pulsions, elle est associée à de véritables revendications. Et New York City Inferno reste un film rare à cet égard. Car son intérêt réside certes dans ses scènes érotiques, mais les rend indissociables d'un combat de la communauté gay pour sa reconnaissance. François Abou propose donc un porno documentaire, un porno politique, un porno pour conquérir des droits. New York City Inferno est donc à rebours de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. À rebours d'une sexualité mise en image, une sexualité seulement de consommation, une pornographie qui veut juste nous proposer un anesthésiant par le désir et un anesthésiant par la sexualité. C'est vraiment un film documentaire dont on espère qu'il ressortira rapidement après sa restauration.
Merci beaucoup Thomas pour ce coup de projecteur engagé sur une histoire encore tue du cinéma.